en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission en habit vert. On ne présente plus Jean Clerc, académicien, historien d'art, commissaire de grandes expositions. Il était invité aux rencontres culturelles du Festival de Fès en 2010 pour parler du voyage initiatique autour du crime. Écoutez ce qu'il nous dit.
Oui, à vrai dire, le sujet du colloque, c'est le voyage initiatique. Et a priori, je n'avais pas tellement de sujets en tête, sauf peut-être Jules Verne et 20 000 lieues sous les mers. Mais mes préoccupations étaient très très éloignées de Jules Verne et de 20 000 lieues sous les mers ou du voyage au centre de la Terre. Donc, comme j'étais plongé dans Crime et Châtiment, j'ai préféré plutôt rester dans la thématique, dans les problèmes, dans les obsessions que je manie, que je remue dans Crime et Châtiment. Et donc, l'une de ces obsessions était, au fond, la signification de la, quelle est la signification cachée, cryptée de la guillotine, qui n'est pas seulement un instrument de mise au service d'une mort égalitaire, pour une mort égale pour tous, d'une mort sans douleur. Enfin, tout ce que vous voulez, le discours que l'on fait pour justifier cette peine de mort immédiate et automatique. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière la guillotine bien autre chose, un jeu qui relève effectivement d'une initiation, peut-être à caractère mystique, ou pourquoi pas peut-être satanique, dans la mesure où un certain nombre d'écrivains, étrangers mais aussi français, ont vu dans la Révolution française une entreprise diabolique. Je pense évidemment à Burke ou à Carlyle, mais aussi en France, Joseph de Maistre, ou moins sulfureux que Joseph de Maistre, un écrivain comme Cazotte, pour qui la Révolution était une gigantesque machination du diable sur la terre. Donc la guillotine, dans ce cas-là, comme instrument qui donne la mort, est une machine tout à fait singulière à examiner, effrayante à bien des égards. Donc voilà, je me suis proposé de réfléchir sur cette machine, et en particulier d'en retrouver la trace de façon très très inattendue et tout à fait extravagante, pourrais-je dire, dans un tableau d'un peintre apparemment très très éloigné des horreurs révolutionnaires, qui est Balthus, le tendre, le suave et le délicat Balthus, dont sans doute l'un de ses plus beaux tableaux, le plus grand en tout cas qu'il ait jamais peint, qui s'appelle Le Passage du Commerce Saint-André, qu'il a peint en 52, juste avant de quitter Paris, et qui a priori représente une vue tout à fait banale du passage du commerce tel qu'il existe aujourd'hui encore, intact, qui va du carrefour de l'Odéon à la rue Saint-André-des-Arts, et tout près du lieu où habitait Balthus à ce moment-là, où il avait son atelier qui était cour de Rohan. Ce tableau, qui est une scène de rue avec des gens qu'on voit de face, de profil ou de dos, des petites filles, des jeunes filles, une vieille dame, le peintre lui-même de dos, avec sa baguette sous le bras, comme un Parisien qui vient de chez le boulanger, semble vraiment une représentation, on ne peut plus, paisible, pacifique, d'un paysage parisien quelques années après la Seconde Guerre, et avec encore cette poésie qui devait par la suite disparaître. Un Paris immortalisé aussi par des amis de Balthus, comme je pense Henri Cartier-Bresson, par exemple, dans ses photos. En fait, ce tableau-là est une initiation à la Révolution, à une certaine révolution de sang et de sacrifice. Et l'indice de départ, si vous voulez, c'est le fait qu'au milieu du tableau, au centre du tableau, il y a un petit animal qui se promène, qu'on prend évidemment pour un chien. C'est un petit animal sur pattes, quatre pattes. Mais en fait, le petit chien en question est très curieux, parce que d'abord il est tout blanc, ensuite il est bouclé, et ensuite il n'a pas un museau de chien. En fait, c'est à l'évidence un agneau. Qu'est-ce que vient faire un agneau dans cette composition? On ne peut plus prosaïque, on ne peut plus quotidienne d'une rue parisienne ou d'un passage parisien. C'est la question qu'on peut se poser. En fait, le mystère commence à se lever quand on se rappelle, si on se le rappelle, que la guillotine fut pour la première fois expérimentée en ce lieu même, passage du commerce Saint-André, au carrefour même que Balthus peint, sur un agneau. Non pas sur un homme, ni même sur un cadavre, mais d'abord sur un agneau. Ce qui donne évidemment une connotation singulièrement étrange à la cérémonie de la décapitation. Ça rappelle tout, ça ne peut pas ne pas rappeler évidemment le sacrifice de l'agneau qu'on trouve à l'origine de la fondation d'une grande religion monothéiste. Et alors, bon, si on prend ça pour une espèce d'extravagance de ma part, eh bien, il suffit de rappeler que, effectivement, passage du commerce Saint-André, c'était le haut lieu de la Révolution française, puisqu'au numéro 8, qui est peint dans le tableau de Balthus de façon très très visible, numéro 8 de ce passage, il était une imprimerie qui, dans mon enfance, quand j'étais étudiant, existait encore, et qui, pendant l'époque révolutionnaire, était l'imprimerie où Marat faisait imprimer l'Ami du Peuple, son journal, et qui était aussi un lieu où se réunissaient tous les révolutionnaires les plus extrémistes, c'est-à-dire les Montagnards, Hébert, des gens comme ça. Un petit peu plus loin, un peu plus à gauche, toujours au numéro 8, il y avait indiqué dans le tableau de Balthus par une clé fixée sur le mur, il y avait effectivement une serrurerie. Cette serrurerie était aussi une forge qui existait toujours aussi quand j'allais déjeuner au restaurant universitaire Le Mazet, qui était tout à côté, devant laquelle je passais donc deux fois par jour. Je regardais à l'intérieur, elle était totalement vide, désaffectée, mais la forge était encore là. Et c'est dans cette forge-là qu'on avait forgé. Et donc évidemment, Balthus la voyait aussi couramment, encore plus, a fortiori, dans les années 50. C'est là qu'on avait forgé la première lame de la première guillotine. Donc, entre Marat, la première guillotine, le petit agneau, il y a déjà là toute une constellation qui est en train de se former. Et de l'autre côté du passage du commerce, au numéro 9, il existait un facteur de clavecin qui s'appelait Tobias Schmidt, qui était un Alsacien d'origine et qui est l'homme qui a véritablement inventé la guillotine. C'est-à-dire, c'est pas Guillotin, comme on le dit, qui a inventé la guillotine. La guillotine existait depuis la Renaissance. Elle était utilisée en Italie, en Toscane, par exemple. C'était deux montants de bois entre lesquels coulissait une lame métallique sur laquelle on appuyait un poids très très fort, et le bourreau, on engageait la tête du malheureux sous la lame, on la coinçait entre les deux montants, et le bourreau était celui qui donnait un grand coup de masse sur la lame, et ça coupait le cou du malheureux. Donc c'était déjà une guillotine. Il y a un élément fondamental de nouveauté qui est introduit en 1790 ou 91 par Tobias Schmidt, qui est l'invention d'une petite clavicule, d'une petite clé, qui est utilisée dans la fabrication des clavecins, qui permet de libérer un objet pesant, la lame en l'occurrence, et ensuite, si je puis dire, de faire remonter la lame de façon aussi quasiment automatique. Et ça se fait à distance, par un déclic, ce qu'on appelait à l'époque une déclic. Donc c'est plus du tout un bourreau qui vient avec sa hache ou sa massue s'approcher de la tête du malheureux pour la couper. C'est à distance que l'opération se fait mécaniquement et que la lame se remonte mécaniquement. Donc véritablement, la guillotine devient à ce moment-là la machine moderne que l'on connaît, capable d'infliger la mort automatiquement, sans intervention humaine quasiment, sauf de pousser sur un bouton, et aussi longtemps qu'on veut. Donc si vous voulez, il y a là tous les éléments qui sont réunis d'une histoire tout de même fondamentale, qui a été l'origine d'une certaine façon très moderne de donner la mort, en masse et automatiquement.
La mort, un thème qui vous hante, qui vous intéresse ?
Bon, bah, je crois que ça intéresse tout le monde.
Crime et châtiment fascinent énormément. Oui. Un succès foudroyant.
Oui, on peut le dire. On peut le dire. Oui, il y a énormément de monde. Ça intéresse beaucoup les enfants en particulier. Peut-être plus que les adultes, parce que les enfants sont beaucoup plus sérieux que les adultes. Et la mort ne les passionne pas, mais la mort les intrigue beaucoup plus que les adultes. Donc il y a beaucoup d'enfants. Ça pose des problèmes. D'ailleurs, on s'est demandé est-ce qu'il ne faut pas interdire l'entrée de l'exposition aux enfants. Hein. Je suis intervenu en disant non, tout de même. Non, non, non et non. Les enfants sont habitués aux horreurs, plus que nous. Les contes de Grimm ou les contes de Perrault sont remplis d'horreurs. Les enfants adorent ça. Donc laissez-leur au moins cette liberté de regarder cela. Et, bon, enfin bref. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants. L'horreur, oui, elle est là, présente. En même temps, un des traits de l'exposition, c'est qu'elle est présente provoquer un sentiment d'une intense beauté. L'affiche qui sert à l'exposition, c'est une reproduction d'un tableau de Géricault, qui sont des membres coupés, des bras coupés, des jambes coupées, des cuisses coupées. C'est un tableau absolument sublime. Géricault allait chercher ses modèles à la morgue ou dans les hôpitaux, à Bicêtre, mais aussi au pied de la guillotine. Il regardait ça, il a peint des chefs-d'œuvre absolus, comme en particulier ce tableau-ci. Alors, qui pose évidemment le problème de ce que c'est que la beauté quand elle naît de l'horreur la plus absolue. C'est une chose très connue, ça remonte à, n'est-ce pas, quel est le poète classique ? Il n'est pas de serpent ni de monstre dieu qui par la rimité ne puisse se plaire aux yeux. Plus c'est odieux, plus ça plaît aux yeux. On peut remonter aux Grecs, évidemment, il y a toute une esthétique de l'horreur chez les Grecs. D'où naît la beauté ? Le Laocoon, par exemple, évidemment, la fameuse sculpture du Laocoon, qui est une sculpture de l'horreur, qui en même temps est un prototype de la beauté, une certaine beauté, et ainsi de suite. Les exemples sont infinis, et puis jusqu'à l'époque contemporaine, si vous voulez, si on se rappelle la phrase de Rilke, le beau n'est que ce degré du terrible qu'encore nous supportons. C'est-à-dire qu'il y a un lien très, très direct, très net, qui va du terrible vers le beau, ou du beau vers le terrible. Les deux choses sont totalement liées. Et je crois que dans l'exposition, effectivement, les gens sont stupéfaits, parce qu'ils voient des choses horribles, non seulement des bras et des jambes coupées, mais aussi des têtes coupées. Dieu sait s'il y a des têtes coupées dans l'exposition. Et malgré cela, une réflexion qui vient très souvent aux lèvres, c'est de dire, mais que de choses magnifiques dans cette exposition, les tableaux de Goya, les aquarelles de Fuseli, les dessins de William Blake, les Géricault, les dessins de Victor Hugo, un ensemble de chefs-d'œuvre, comme on en voit rarement dans une exposition.
Je voudrais dévier un tout petit peu sur le thème du voyage, si vous le voulez bien, et des œuvres. Est-ce qu'on peut faire voyager les œuvres? Est-ce que c'est une bonne chose de les faire voyager?
Tout dépend de l'œuvre en question. En l'occurrence, pour l'exposition, elle n'est pas itinérante pour beaucoup de raisons, mais elle ne l'est pas surtout parce que les deux tiers de l'exposition sont des œuvres sur papier, sont des dessins, des aquarelles, des gravures, et ces œuvres sur papier ne peuvent pas être mises à la lumière plus de 3 mois. Parce que le soleil brûle le papier, et donc au bout de 3 mois, il faut les remettre à l'obscurité. Donc il n'est pas question de faire voyager une exposition, pas l'essentiel, mais une partie est composée d'œuvres sur papier. Par contre, pour d'autres œuvres qu'autrefois on n'osait pas trop faire voyager, en particulier les peintures sur bois qui souffrent beaucoup des changements d'hygrométrie et d'humidité, aujourd'hui on est un petit peu moins prudent dans la mesure où on a des conditionnements extraordinaires de caisses pour les transports et aussi des moyens de transport extrêmement souples, élastiques, qui font que les risques sont beaucoup moins grands. Ceci dit, les risques sont toujours très très évidents et on prend toujours effectivement un grand risque, en effet, si on fait voyager une œuvre, et aucun doute.
Merci beaucoup Jean-Claire pour ces propos. Je rappelle que vous interveniez ici à Fès à l'occasion du festival en 2010 sur le thème du voyage initiatique à travers la mort. Tout un programme que vous avez également exposé au musée d'Orsay sous le titre d'une exposition qui a eu beaucoup de succès et qui s'est appelée « Crimes et châtiments ».